liberté. Une émission pour déménager la biologie. Science en liberté. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. En observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler tous les quatrièmes lundis de chaque mois, entre 18h et 19h30, sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. De Thierry Laudet pour animer une émission qui va déménager la biologie pendant 1h30. Et ravi de vous retrouver pour cette troisième émission. La question qui nous anime est encore et pour la deuxième fois, que reste-t-il de Darwin ? Nous en sommes donc à notre deuxième partie de « Où en est la biologie depuis Darwin ?» À peine avions-nous entrevu derrière la biologie les 1001 lieux communs de la pensée humaine que se construisait encore l'image héroïque du savant dont on nous dit avoir tant besoin. Et pourtant non, comme d'autres scientifiques, Darwin reste un homme de son temps, emporté par les faiblesses les plus réactionnaires et les plus conservatrices de son époque. Il sut tout de même donner quelques grands travaux à la biologie sur les orchidées, sur les émotions, nous y reviendrons d'ailleurs. Mais en suivant les avancées de la biologie d'évolution, nous avons découvert combien Charles Darwin a puisé ses idées dans le corpus scientifique du début du XIXe siècle. Car quel est le vrai découvreur de l'évolution ? C'est sans nul doute Lamarck, Jean-Baptiste Lamarck. Mais alors, qui était vraiment Darwin ? Un simple scientifique qui s'est promené, qui a travaillé en ce début du XIXe siècle et surtout à la fin du XIXe siècle. Évidemment, il a rédigé ce livre impensable de l'origine des espèces. Livre impensable parce que dans ce livre, il ne traite ni de l'origine, ni des espèces. Pourtant, ce livre a construit sa célébrité. Si ce livre a construit sa célébrité, c'est qu'on avait besoin, à cette époque-là, d'une nouvelle théorie, d'un élément clé, fort et puissant, qui allait pouvoir poser la biologie de manière plus ou moins définitive. Et c'est surtout que le Darwin qu'on nous raconte a été réinventé par le néo-darwinisme. Le néo-darwinisme, c'est la théorie dominante actuelle. Les choses changent cependant, et la biologie actuelle, la biologie la plus moderne, laisse finalement assez peu de place à ces argumentaires précédents. Alors nous allons voir que toutes ces choses-là changent petit à petit, et on va aussi comprendre quelles sont les limites de Darwin. Évidemment, au XIXe siècle, cela pouvait apparaître comme un phénomène important. Mais on l'a vu, l'évolution était déjà datée. Il y avait déjà de nombreux chercheurs qui en parlaient. Alors, auditrice, auditeur intrépide, il faut maintenant que nous puissions continuer tout cela. Nous avons détaillé comment l'évolution est un concept qui a pris place à la fin du XVIIIe siècle. En fait, tout à fait aménagé grâce à l'esprit des Lumières. Et au cours de cette deuxième partie, nous allons voir comment Darwin a construit sa théorie et combien les choses ont changé. Car décidément, le vieux darwinisme n'a plus beaucoup de raison d'être aujourd'hui. D'ailleurs, il faut le répéter, le darwinisme a été remplacé dès les années 1940 par une autre théorie, le néo-darwinisme, que les néo-darwiniens appellent plutôt la théorie moderne et la théorie synthétique de l'évolution. Bon, son modernisme date des années 40, il va aussi falloir beaucoup le dépoussiérer. Nous allons donc parler de tout ça. C'est donc à Lamarck que Darwin a emprunté l'idée de l'adaptation ainsi que l'idée de la transmutation des espèces. C'est-à-dire que les animaux changent, et pendant tout le 19e siècle, cette théorie évolutive a cherché à comprendre comment les animaux pouvaient s'adapter à leur environnement. On a vu que Lamarck avait été celui qui a découvert entre 1780 et surtout 1809, en pleine Révolution française, à la fin de la Révolution française, et que c'est lui qui a conclu le grand bouillonnement des idées de la fin du XVIIIe siècle, qui avait été inauguré, grosso modo, par D'Holbach, Buffon, Lamétrie, Maupertuis. Tous ces gens-là ont permis de faire apparaître une idée révolutionnaire que Lamarck a réellement construite et qui s'appelle l'évolution biologique des espèces. Bien entendu, à partir du début du XIXe siècle, ces idées vont se diffuser. En France, c'est principalement des gens comme Armand de Quatrefages, par exemple, qui vont propager les idées évolutionnaires de Lamarck. Ces idées ne vont d'ailleurs pas trouver du tout d'opposition. À travers le monde biologique de l'époque, il va y avoir Cuvier, pendant toute l'époque de Lamarck, qui va tout faire pour empêcher le lamarckisme de se développer. Mais à la fin des années 1820-1830, on va dire que l'évolution est bien établie. Il faut attendre Charles Lyell, en Grande-Bretagne, vers 1830, pour répandre les théories de Lamarck à travers deux concepts majeurs, l'adaptation par la transformation organique, l'éléphant et sa trompe par exemple, et la modification lente sous l'effet de l'environnement. En effet, les choses doivent aller lentement. Charles Lyell, lui, va s'enthousiasmer pour cette théorie et va la diffuser dans la Grande-Bretagne de son temps. Or, évidemment, pendant ce temps-là, Charles Darwin, un petit bourgeois de son époque, jeune, 27 ans, décide de voyager. Et là, il visite l'Amérique du Sud.
Voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
mate con vaya, mate de frente.
De Alto Cedro voy para Macané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarín.
C'était Compay Segundo de Cuba qui interprétait Can Can. Avec mon mauvais accent, j'essaie de vous donner cela. C'est étrange, une taupe. L'animal vit sous la terre et vient à peine renifler l'air du soir, passant d'un champ à un autre. Toute la vie des taupes se déroule sous la terre, là où elle installe ses galeries. Elle cache dans ses terriers secondaires des vers de terre dont elle se nourrira lorsqu'elle va revisiter ses réserves. Il faut imaginer les tonnes et les tonnes de terre que brasse la taupe chaque nuit, aérant le sol et débusquant la moindre larve. Pour cela, elle dispose d'un flair incroyable. Mais elle possède aussi de grandes vibrisses au bout de son nez pour toucher les lombrics, car dans le noir, évidemment, on ne voit pas bien. Et surtout, si vous regardiez comment sont faites les mains de la taupe, vous observeriez une incongruité organique. Chaque main de la taupe possède 6 doigts. Car pour creuser, pour déménager autant de terre, la taupe a des paumes élargies en forme de pelle. On appelle cela une palette de fouissage. Et il semble bien que 5 doigts ne suffisaient pas à l'animal pour que sa main soit assez large. Alors, elle a utilisé en renfort un petit os, un petit quelque chose, ce qu'on appelle un sésamoïde, un de ces os qui maintient les articulations. Et ce sésamoïde, au cours des temps, de l'évolution des taupes, ce sésamoïde s'est transformé en un 6e doigt, permettant d'élargir sa palette de fouissage à la manière d'un bulldozer. Bref, la taupe s'est adaptée à creuser sous terre. Mais comment une telle chose est-elle possible? Eh bien, figurez-vous que c'est cela que raconte la biologie évolutive.
Dans les végétaux, où il n'y a point d'action et par conséquent point d'habitude, de grands changements de circonstances n'en amènent pas moins de grandes différences dans leur développement. 1809, Jean-Baptiste Lamarck, philosophie zoologique.
Lamarck est maintenant loin. Il est mort en 1829 et Darwin voyage. Soutenu par son oncle Wedgwood, Charles Darwin va obtenir le poste de naturaliste auprès du capitaine Frisoy qui projetait le tour du monde sur son bateau célèbre, le Beagle. Le Beagle quitte Devonport le 27 décembre 1831. Alors ce voyage nous est raconté comme une épopée extraordinaire. Darwin relevant des fossiles en Amérique du Sud. En fait, il n'y a là rien d'extraordinaire puisque pendant tout le 18e siècle, et tout le 19e siècle, tous les naturalistes du monde vont découvrir les fossiles et vont les étudier. En fait, Darwin a passé beaucoup de temps au sol. Il chassait beaucoup, et nombre des animaux naturalisés qu'il a ramenés en Grande-Bretagne provenaient de ses chasses. Il faut reconnaître que cette habitude de tirer au fusil sur des animaux était partagée par bien d'autres biologistes de l'époque. D'ailleurs, Jean-Jacques Audubon, un biologiste français qui, à l'époque, avait émigré en Amérique du Nord, constitua aussi sa collection grâce au fusil. Mais il a été aussi un des premiers dans cette société qui était vouée à la conquête du continent et à une certaine violence, a essayé de militer pour la protection de la nature en dénonçant le massacre incroyable qu'on pouvait faire des animaux à l'époque. Mais revenons. Darwin collectionne, se promène en Amérique du Sud, il fait de longues pauses, fréquente assez bien les bars, Et enfin, reprenant le bateau, il va arriver aux Galapagos. Alors là, évidemment, on nous raconte l'émerveillement de Darwin devant tous ces animaux extraordinaires. Et pourtant, là, ce que fait Darwin, c'est d'observer des pinsons. Pour observer les pinsons, il prend son fusil et les collectionne. Le retour du voyage est sans beaucoup de fantaisie. Darwin est pressé, d'ailleurs. Il débarque enfin en Angleterre après un total de 18 mois de bateau et de 3 ans de travail au sol. À collectionner, à répertorier tout ce qu'il a pu trouver et essayer de le classer. C'est un chercheur qui devient, qui apprend à être rigoureux et méticuleux. Ensuite, arrivé à terre, comme il est à l'abri de tout souci matériel grâce à la fortune dont il a hérité, et d'ailleurs il est fort soucieux de ses revenus et s'est très bien déplacé, c'est un banquier avisé, et puis qu'il n'est pas très travailleur, il décide de devenir naturaliste. Et cette vocation va de fait devenir, dès cette fois-ci, définitive. Il arrive, grâce à des appuis, à devenir secrétaire de la Geological Society à partir de 1838. Donc vous voyez, là il a atteint maintenant son âge vénérable d'une trentaine d'années. Et pendant cette période de secrétaire, il va enregistrer tout ce qui se passe à la Société naturaliste de Londres. Et il va assister à tous les débats, participer aux débats. Il va beaucoup se lier avec un grand chercheur de son temps, dont nous avons parlé tout à l'heure, Charles Lyell. Sir Charles Lyell est celui qui a diffusé le lamarckisme en Grande-Bretagne. Revenons. L'histoire officielle nous répète que ce serait au cours du voyage du Beagle dans les Amériques que Darwin aurait inventé ses idées sur l'évolution. Oui, je sais, ça fait bizarre, mais en biologie, on dit inventer des idées. Pourtant, il semble quand même qu'on ait beaucoup exagéré l'intérêt naturaliste du voyage sur le Beagle. D'abord, il ne retient pas grand-chose de tout le voyage. L'histoire raconte que c'est les pinsons qui auraient forgé sa conviction. Mais il y a beaucoup de choses que Darwin a oubliées. D'abord, il ne s'intéressait pas à l'évolution à l'époque, comme on l'indique fort bien ses lettres et ses courriers. Il ne connaissait pas les travaux de Lamarck, ce n'est pas un grand lecteur, hein, il passe beaucoup plus de temps à se promener. Il collecte des échantillons, mais sans beaucoup de méthodes au départ. Par exemple, il n'a pas vu qu'il y avait des iguanes aux Galapagos, il ne s'est pas intéressé aux tortues. Vous voyez, beaucoup d'espèces comme ça ne l'ont pas motivé. À son retour, il aurait longuement maturé sa réflexion. Pourtant, c'est Wallace qui va écrire les articles sur la survie des plus aptes, en 1855 et 1856, sur la survie des plus aptes. Alors, Darwin va rédiger, à ce moment-là, sous l'impulsion de Lyell, son livre « De l'origine des espèces ». En fait, tous les biologistes de ce temps hésitaient encore. Comment est-ce que l'environnement pouvait-il favoriser les adaptations? Quand, en 1855, l'article de Wallace paraît, il étaye une relation entre le changement des organes et l'adaptation, et il affirme que c'est une question de survie. Évidemment, en élaborant cela depuis les mers du Sud, Wallace habitait en Nouvelle-Zélande, sa théorie, Wallace va publier un texte qui s'intitule « The tendency of the varieties to depart indefinitely from the original type », qui énonce que sa théorie sur comment une nouvelle espèce peut évoluer à partir d'une espèce préexistante. Et il en déduit sa conclusion magistrale, il faut évidemment que les individus luttent les uns contre les autres pour que les meilleurs existent. Du coup, Darwin est très en retard. Il va se dépêcher à rédiger à toute vitesse son livre, et si vous lisez son livre « De l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie », vous verrez qu'il est écrit en effet un petit peu rapidement. C'est un livre un peu brouillon, pas très simple à comprendre et pas très très bien écrit. Il appelle ça l'origine des espèces, mais il n'y a aucune théorie sur l'origine. Lamarck avait une théorie sur l'origine, la transformation des premières cellules, des premiers organismes, à partir de la matière inorganique. Il n'y a pas non plus de théorie de l'espèce chez Darwin. Mais ça, c'est tout à fait logique, car les biologistes de l'évolution de l'époque n'aiment pas finalement parler d'espèces. Ça rappelle trop les anciennes théories de Linné qui disent que les espèces sont finalement l'œuvre de Dieu fixée une fois pour toutes. Comme les espèces sont mouvantes, il est évident que c'est plus difficile d'en parler. Et puis, son livre est édité pour la première édition en 1859. Donc on vous dit, la théorie d'évolution, elle date de cette année-là. Mais en fait, dans le livre, il y a beaucoup, beaucoup de corrections à faire. Et c'est Lyell qui va insister pour que Darwin précise ses idées. En fait, la plupart des idées n'apparaîtront que dans la troisième et surtout dans la quatrième édition, expliquant qu'un tri est effectué par les circonstances. Et il reproche notamment à Lamarck l'idée que les espèces auraient une certaine volonté de survivre. Cela donne lieu d'ailleurs à une correspondance tout à fait étonnante entre Lyell et Darwin entre 1859 et 1870. Donc, Charles Lyell écrit dans sa lettre.
Mais, mon cher Darwin, Lamarck rendit à la science l'éminent service de déclarer que tout changement dans le monde organique, aussi bien que dans le monde inorganique, est le résultat d'une loi et non d'une intervention miraculeuse. L'impossibilité d'une distinction entre espèces et variétés, la gradation si parfaite des formes dans certains groupes et l'analogie avec les animaux domestiques ont conduit Lamarck à ses conclusions sur le changement des espèces. Quant aux causes, il les chercha dans l'action directe des conditions physiques et dans une loi d'usage et de non-usage. C'est à cette cause qu'il rattache toutes les admirables adaptations de la nature, telles que le cou de la girafe, et explique même l'existence d'organismes simples par leur génération spontanée à partir de la matière.
Alors, Darwin, un rien agacé, lui répond.
La doctrine de la volonté de Lamarck est absurde et non applicable aux plantes. Pourquoi, peut-on se demander, tous les éminents naturalistes et géologistes ont-ils rejeté l'idée de la mutabilité des espèces ? Vous faites allusion à mes idées comme étant une modification de la théorie de Lamarck, mais je ne partage pas votre avis. Je crois que sa façon de poser la question de l'évolution a été très nuisible à son acceptation. Et je considère, après l'avoir lu à deux reprises, comme un livre misérable dont je n'ai tiré aucun profit.
Ce à quoi Liel se sent obligé de corriger.
Lamarck fut le premier à présenter systématiquement l'idée de développement progressif. Et cette superbe théorie de la transmutation, en premier lieu à la page 480, on ne peut certainement pas dire que les naturalistes les plus éminents aient rejeté l'idée d'évolution des espèces. Vous ne devriez pas oublier non plus Geoffroy Saint-Hilaire ni Lamarck. Et en ce qui concerne ce dernier, vous ne pouvez dire qu'à l'égard des animaux, vous substituez la sélection naturelle à son idée de la volonté. Car dans sa théorie des modifications des plantes, il ne pouvait pas parler de volonté. Il l'a dit en revanche, Lamarck a sans doute à tort mis trop de phénomènes sur le compte des changements à cause des conditions physiques et non pas assez à cause de la lutte des organismes entre eux. Correspondance 1859.
Thank you. C'était la danse hongroise de Brahms, et pendant que les gens dansaient, évidemment, il fallait bien que nous vous rappelions tout ce contexte. Alors, chère auditrice, cher auditeur, nous continuons à chercher qui était Darwin et ce qu'il peut en rester. Il avait donc commencé à rédiger des papiers dès 1848, et donc on voit que dans ses lettres à Charles Lyell, notre ami Darwin ne cache guère son agacement d'être l'héritier de Lamarck. Il veut à tout prix distinguer sa théorie. En fait, le reproche majeur que Darwin fait à Lamarck, c'est la soi-disant hypothèse d'une théorie de la volonté. Pourtant, cette théorie de la volonté est la manière dont Darwin décrit ce que Lamarck appelle des habitudes, ou encore l'usage et le non-usage. Pour Lamarck, c'était un point sans beaucoup d'importance, même si évidemment, il avait probablement tort. Les espèces changent sous l'effet des circonstances, et il annonce que l'usage d'un organe le renforce, tandis que son non-usage l'affaiblit. À l'époque, c'était l'état de la recherche. Et imaginez d'ailleurs que c'est encore comme cela que nombre de gens imaginent l'évolution humaine. On nous décrit par exemple que vivant dans la savane, l'Australopithèque se serait mis debout pour voir au-dessus des herbes ses prédateurs. Et puis bon, comme il était debout, il aurait transmis cette aptitude à ses descendants. Vous voyez que c'est exactement la théorie de l'usage et du non-usage. On lit aussi souvent dans les écrits sur les animaux, comme preuve du darwinisme, que c'est cet usage ou ces non-usages qui a permis de faire évoluer les choses. Et en plus, c'est probablement Darwin qui a été le seul à élaborer une théorie sur cette hérédité des acquis. En fait, cette théorie de l'hérédité des acquis s'appelle les gémules. Son idée, c'est que les gémules s'y multiplient en fonction de l'usage. Il a aussi d'ailleurs une théorie sur la dégénérescence des organes si on ne les utilise pas. On en reste d'ailleurs assez peu de critiques actuellement dans la théorie évolutive. Et ce point mériterait d'être réétudié. Alors il évoque par exemple une phrase très simple, hein, les adaptations sont favorisées, en certains cas, par l'usage et le non-usage. Voilà, il dit ça texto. Donc on voit que c'est une formule très lamarckienne. Mais les gémules sont probablement le fourvoiement le plus important. En fait, il emprunte cette conception d'hérédité à Hippocrate, on ne peut pas chercher tellement plus loin, et il veut essayer de développer une théorie d'acquisition des caractères. Alors évidemment, cette réponse lui conférerait une crédibilité à la théorie de l'évolution. Donc il faut qu'il y ait une modification préliminaire qui doit s'avérer à la fois minuscule et sans effet. C'est le principe de ce qu'on va appeler la génétique. Minuscule parce que ça permet de ne pas réduire l'état actuel de l'organisme et de continuer à ce qu'il soit adapté. Et en même temps, importante tout de même, suffisamment importante et suffisamment capable de s'accumuler de manière à fabriquer une différence. Or, Darwin va partir sur cette hypothèse de l'accumulation avec, comme partisan convaincu de l'hérédité des caractères acquis, il va penser que ce sont des minuscules corpuscules invisibles, les gémules, qui s'accumulent dans les organes quand on les utilise. Puis quand on n'utilise pas ces organes, eh bien ces gémules ne s'accumulent pas. Et ces gémules vont, en quelque sorte, garder la mémoire du corps, permettant à l'individu et aux descendants de retrouver cela. Alors il insiste bien en disant que ce sont quand même les descendants. Mais il reprend ici donc cette opinion de Lamarck sur la loi d'usage et du non-usage, et il explique que l'emploi assidu d'un organe va charrier la circulation de plus de gémules. C'est évidemment une erreur, et les gémules n'existent pas, l'idée paraîtrait même complètement effarante aujourd'hui. En plus, c'est assez contradictoire, parce que le darwinisme qu'on nous présente aujourd'hui est le contraire même de l'hypothèse de la transmission des caractères acquis. Et d'ailleurs, Weismann avait travaillé à essayer de comprendre ce qu'étaient ces caractères acquis en s'amusant à faire une expérience tout à fait étonnante, en tout cas, une expérience qui consistait à couper la queue.
J'avoue franchement aussi que je n'ai entrepris ces expériences qu'à contre-cœur, parce que je ne pouvais espérer en obtenir autre chose que des résultats négatifs. Mais comme ces résultats, même négatifs, ne me semblaient pas complètement dépourvus de valeur pour la solution de la question pendante, et comme les nombreux défenseurs de l'hérédité des caractères acquis ne se disposaient pas à corroborer leur opinion par l'expérience, je m'imposais ce petit travail. D'August Weismann, la prétendue transmission héréditaire des mutilations, des essais, 1892.
Alors, ces expériences ne prouvent pas grand-chose. Elles ne réfutent pas l'opinion de la possibilité de transmission des mutilations. En plus, l'expérience était effectivement assez étonnante. Du point de vue théorique, si on voulait soutenir que l'hérédité des mutilations avait besoin de génération, on ne pouvait évidemment pas l'élaborer par cette méthode. La biologie change de contrée, nous sommes passés en Allemagne, avec Weismann et Haeckel. Et en fait, on va voir que c'est à partir de ces époques-là que la biologie va se heurter à un gros, grave problème, celui de la génétique. Il faut dire à quel point les darwiniens actuels insistent sur cette différence entre Lamarck et Darwin. Comme le dit Huxley, par exemple, avec Lamarck, la girafe aurait étiré son cou et au fur et à mesure, les descendants ont hérité de ce caractère. Au contraire, nous dit Huxley, chez Darwin, le long cou est une acquisition aléatoire qui provient de la concurrence et de la mort des girafes qui n'auraient pas obtenu ce long cou. Tout ça, ça va être résumé par un biologiste français, Queneau, qui dit « L'évolution, c'est le hasard trié par la mort ». Donc, la sélection naturelle se fait lentement par petites touches. Le gradualisme est bien obligatoire. Il faut que le caractère change sans altérer la survie de l'animal qui évolue. Chaque changement doit être minime et graduel. L'éléphant a donc vu sa trompe graduellement changer d'une espèce ancestrale avec une trompe courte à une autre jusqu'à l'éléphant actuel. Et cela sans aucune volonté de changer, d'une manière complètement matérialiste. Les animaux qui changeaient possédaient un avantage, les autres mouraient à cause de la concurrence entre eux. C'est cela l'idée de la sélection naturelle telle qu'on peut la reprendre dans le texte original. Une idée superbement simple, pour survivre, il faut disposer de la meilleure adaptation possible. Et pourtant, c'est Darwin lui-même qui va réintroduire la notion de volonté. Pourquoi ? Parce que la sélection naturelle va s'avérer assez insuffisante. Swad Massi, Denia Velsnem. Il existe dans les forêts de Bornéo un oiseau étrange qui secoue ses plumes rouges et brunes en claquant du bec. Ce paradisier expose tout un ensemble de couleurs et de sons et ce n'est pas pour survivre ou pour épouvanter ses prédateurs qu'il fait cela.
Exubérant, le paradisier de Raghi.
Thank you.
Pour séduire, il parade en exhibant son plumage avec d'autres mâles.
Plus loin dans les mangroves existe aussi le nasique. Le nasique, un drôle de singe, au ventre proéminent, qui se gave de feuilles toute la journée. Le nasique vit en groupe et se cache pour déjouer les prédateurs. Mais quelque chose a rendu célèbre ce grand singe. Et ce quelque chose, c'est son appendice nasal. Un long nez de plusieurs centimètres qui orne la face des mâles. À quoi peut donc servir un organe aussi baroque? Eh bien, il est évident que tous ces organes étranges ne sont pas utiles à la sélection naturelle. Tout ça nous signifie que les modifications organiques ne sont pas là pour de l'adaptation. Les organes superflus apparaissent, des crêtes, des couleurs, des cornes, des bois. Tous ces organes ne peuvent pas faciliter la survie dans une concurrence ou une compétition dans la lutte pour la vie. Ces organes extravagants, la queue du paon, les couleurs chatoyantes du paradisier, le chant du coq lui-même, le long nez du nasique ou même le bois des cervidés, tout cela n'est pas là pour la survie, mais pour plaire, pour séduire. Alors Darwin, en 1871, après 10 ans après avoir publié La sélection naturelle, va inventer le concept de sélection sexuelle. Ces organes incroyables, dit-il, ces couleurs chatoyantes, ces becs et ces bois sont présents pour que les mâles séduisent les femelles. Chaque mâle va se battre, c'est le principe de la rivalité. Et le plus fort vaincra et aura accès aux femelles. Comme c'est celui qui est le meilleur qui gagne dans cette bataille, on voit que le caractère va être sélectionné. C'est donc la sélection sexuelle, totalement parallèle à l'hypothèse d'une sélection naturelle. Et même les femelles, dont Darwin n'appréciait guère l'intérêt, vont jouer un rôle, car elles vont choisir le mâle le plus beau et le plus fort. Autant dire que les femelles, en préférant se reproduire avec un beau mâle, vont sélectionner ses attributs. Tiens donc, si l'on préfère la sélection sexuelle, c'est le choix des femelles, ou la victoire des mâles, ça signifie que l'évolution va dépendre de leur réussite. Donc, quelque part, de leur volonté de réussir, de leur opiniâtreté. Eh bien, chère auditrice, cher auditeur, n'est-ce pas un paradoxe que de voir le darwinisme revenu à cette idée de la volonté que Darwin critiquait ? Car plus même, la théorie actuelle au néo-darwinisme l'affirme, et vous l'entendez chaque jour sur les ondes, chaque individu aurait la volonté de laisser ses gènes. La réussite ultime d'un organisme vivant serait de laisser ses gènes sur la planète, et seuls les meilleurs y réussiraient. Même la théorie évolutive moderne reconnaît donc le rôle de cette réussite de la volonté. L'évolution, du coup, va dépendre du choix de chacun, et bien sûr de sa réussite ou de son échec. Alors, les recherches modernes vont confirmer ce rôle des individus dans leur évolution particulière. Chaque espèce sélectionne un organe ou une couleur au cours de son histoire naturelle. On dit même que l'humain aurait sélectionné un organe exceptionnel, figurez-vous. L'humain aurait sélectionné le cerveau. À y regarder de plus près et voir comment ça se passe dans nos sociétés, c'est peut-être pas aussi vrai qu'on le voudrait, n'est-ce pas ? Quoi qu'il en soit, il existe aussi un autre point qui distingue Darwin et Lamarck. Là où Lamarck faisait de l'histoire naturelle, Darwin insiste sur la géographie. Alors c'est étonnant parce qu'il n'a pas tellement figuré d'où venaient les espèces qu'il a étudiées. Il a même oublié souvent de les cataloguer. Mais cette théorie de Darwin va insister sur la concurrence, notamment dans l'espace. Et cette concurrence va entraîner que les espèces vont s'isoler par la géographie. On retrouve l'idée des pinsons de Darwin et des îles. Évidemment, tout cela va petit à petit se construire dans une hypothèse centrale. Vous voyez, un gradualisme. Les espèces vont changer petit à petit. Et puis une géographie. Les espèces vont changer selon l'endroit où elles sont. Voilà les deux piliers de ce qu'on va appeler le néo-darwinisme, qui va intégrer la génétique pour dire les espèces changent petit à petit et ces espèces vont changer dans l'espace. Or voilà les deux piliers, ces deux piliers qui sont actuellement totalement remis en cause. En outre, c'est bien sûr très eugéniste. On retrouve ici les quelques idées de Leibniz, que Francis Galton aura redéveloppées d'ailleurs, et que Voltaire critique déjà dans Candide. Car tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, pour Darwin, il y a une hiérarchie parentale, alors que Lamarck y voyait une complexité à l'œuvre. Pour les néo-darwiniens, on va le voir, tout est une question du succès des meilleurs, et c'est la concurrence qui est la base de tout. On y trouve donc des arguments pour le capitalisme, pour l'inégalité, et bien sûr pour l'eugénisme et le racisme, comme nous l'avions déjà développé la dernière fois. D'ailleurs, Darwin épousait les idées de son temps, Cela dit, la théorie de Darwin ne va pas beaucoup plus loin et il y a quand même beaucoup de choses qui vont être rayées. Il faut reconnaître qu'il va falloir maintenant mieux comprendre ce qu'est le néo-darwinisme pour intégrer tout cela.
D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits avec du mauvais vin, mais qu'on retrouve matin dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur. On ne pense pas. On prie. Et puis, il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville, enfin, d'une autre ville, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec ce petit toto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Et puis, il y a les autres, la mère, qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père, qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands... Et ça fait des grands... Et puis elle a toute vieille, qui en finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qui a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur. On ne cause pas. On compte. Et puis, il y a Farida qui est belle comme un soleil et qui m'aime pareil que moi j'aime Farida. Même qu'on se dit souvent qu'on aurait une maison avec des tas de fenêtres, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger les chats. J'ai jamais tué de chat. Ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin ils veulent pas. Enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, monsieur, alors pour un instant, alors, moi je la crois. Pour un instant seulement, monsieur, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas. On ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. de rentre chez moi.
Eh bien, Jacques Brel, chez ces gens-là, on parlait aussi d'évolution.
Mais alors, qu'est-ce que les animaux pensent de Darwin ?
Eh bien, paradoxalement, dans la publication du mois, nous allons parler d'animaux conformistes. Car en effet, les animaux, en fait, seraient copieurs les uns des autres. En fait, on le sait depuis fort longtemps, il s'agit de mécanismes de copie qui permettent de présenter ce qu'on va appeler des cultures animales. C'est-à-dire que les animaux apprennent en regardant les autres. Alors, ce n'est pas vraiment Franz De Waal qui a découvert ça. Il y a beaucoup d'autres personnes qui l'ont cité. Notamment, il y a une publication de Allen et Hall, de Allen et collaborateurs, qui va nous reparler de tout ça chez des animaux aussi étonnants que le mégaptère, c'est-à-dire la baleine à bosse, et également, bien sûr, chez un autre animal étonnant, le petit singe vervet.
Ah oui, le vervet, c'est ce petit singe rigolo qui suit les gnous dans les savanes.
Voilà. Et ce vervet fait ça de manière très opportuniste parce qu'il ne fait pas que suivre les gnous, mais les petits vont apprendre en regardant les parents. En fait, c'est fou tout ce qu'on peut apprendre en regardant les parents. Alors évidemment, de passer de l'hypothèse qu'on apprend par la copie à l'hypothèse que les animaux sont conformistes, il y a quand même un large pas que n'hésite pas à franchir notre cher ami Franz De Waal, qui est pourtant un biologiste relativement différent des autres. Souvent, il essaye d'élaborer des théories nouvelles et des pensées nouvelles. Mais j'ai bien l'impression qu'au fur et à mesure qu'il vieillit, il redevient plus néo-darwinien que ce qu'il a été jusqu'à présent. Toujours est-il que les animaux seraient donc capables de faire preuve de cette ambiance culturelle en copiant les uns les autres. Et ils le font également chez les baleines.
Ah oui, tu nous parlais des baleines.
Eh oui, car les baleines en fait vont utiliser ce qu'on appelle un schéma de diffusion des sons. Et en analysant ce schéma de diffusion des sons, on s'est déjà rendu compte chez pas mal d'espèces, mais là en l'occurrence l'étude porte sur la mégaptère de Nouvelle-Angleterre, donc la baleine à bosse, que les animaux ne vont pas avoir en moyenne les mêmes sons dans un groupe ou dans un autre. Alors l'étude porte sur une étude qui a plus de 27 ans, donc avec beaucoup de supports d'études des sons et beaucoup de différences de modèles, mais l'analyse spatiale et temporelle nous montre qu'en fait les espèces vont changer complètement de type de son. Et ces résultats, quand on les couple avec ce qui se passe chez les prédateurs, ce qui se passe chez les proies, eh bien, vont évidemment nous faire comprendre qu'il existe chez les baleines des traditions chantées, des traditions de chant. C'est-à-dire que certaines vont maintenir de manière indépendante des traditions dans certaines populations et d'autres pas. Et évidemment, quand on est pris dans une tradition particulière, eh bien, on va être un peu plus ralenti, un peu plus inhibé pour en apprendre une nouvelle. Chacun a sa culture, c'est logique chez les animaux, y compris évidemment ce que les biologistes appellent des non-human cultures, c'est-à-dire des cultures non-humaines, qui vont être totalement indépendantes ici des primates. Alors évidemment, ils en sont fort contents de cette étude. Voilà donc que nos animaux vont devenir non seulement capitalistes, non seulement ils sont culturellement capables de ne faire qu'une chose, se battre les uns contre les autres dans la loi de la jungle, mais voilà qu'on nous dit en plus qu'ils sont conformistes. Bon, ne plaisantons pas, évidemment, on va regarder les animaux autrement. Et ils ne sont pas tous là.
Thank you.
écoutions Winifred Atwell, Fingers Aren't Not They Used To Be, 1954. Vous êtes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, et dans une émission faite pour les Cortiqués du Bulbe, Science en Liberté.
Eh bien nous, voilà, repartis pour la théorie de l'évolution. Donc nous l'avons vu, pour les néo-darwiniens du départ, le darwinisme est un principe aristocratique. Et puis petit à petit, entre 1900 et 1940, va s'inventer la génétique. Si au début il y a un conflit entre les généticiens qui disent que tout change et les darwiniens qui veulent que ce soit uniquement lié à l'adaptation, on va quand même retrouver petit à petit la capacité d'intégrer l'un dans l'autre. Entre 1940 et 1960, on va donc réinventer Darwin. Cette entreprise a été faite par Hans Meyer, Julian Huxley et George Simpson notamment, qui ont totalement réinventé l'histoire de Darwin comme une espèce de point de départ nouveau de la biologie. Alors il faut dire qu'à cette époque-là, évidemment juste après la guerre, tout le monde était un peu parti sur les points de départ. Puis il ne faut pas imaginer ça comme une grosse théorie bien réfléchie, bien pensée. Non, ça fait l'objet de beaucoup de débats, de beaucoup de critiques et d'éléments contradictoires. Et en fait, comme toujours, ce sont ceux qui ont le mieux parlé de la chose ou ceux qui en ont parlé le plus fort qui ont réussi à construire ce qu'on a appelé la théorie synthétique de l'évolution ou encore théorie moderne. Alors avec le mot moderne, évidemment, on était bien placé pour la garder un certain temps. Et cette théorie synthétique de l'évolution était censée associer d'une part la sélection naturelle de Darwin et d'autre part la théorie de l'information génétique. On a mis au milieu de tout ça la sélection sexuelle pour faire joli. Donc, toute l'histoire de Darwin a été réinventée et on en a fait cette espèce de héros absolument extraordinaire qui aurait découvert les choses de l'évolution et comme si avant lui, il ne s'était rien passé. Il faut bien voir que c'est un peu comme ça qu'on nous parle de la biologie. Avant Darwin, le monde était plein de créationnistes qui avaient tout oublié, qui ne connaissaient rien, il n'y avait quasiment pas d'athées, du moins c'est ce qu'on nous dit. Or, ce n'était pas du tout le cas, évidemment, il y avait beaucoup d'athées dès l'histoire des Lumières, et c'est toute la biologie française qui est rayée en quelque sorte d'un coup de crayon par ces gens-là. Alors ceci dit, il faut avouer que rénover la théorie darwinienne était nécessaire. Alors si nous avons commis quelques crises de lèse-majesté, parce qu'on sait que Darwin est adulé, et on pourrait penser en effet que de notre côté à nous, nous passons beaucoup de temps pour le détruire, il faut quand même pas oublier que le Darwin a été inventé, car le Darwin dont on a fêté le génie n'existe pas. Alors, c'est pas que la personne a été inexistante, mais comme il a été reconstruit et réinventé, évidemment, on ne peut plus tout à fait le connaître comme il était. Or, il faut bien comprendre, une fois pour toutes, que l'évolution est un fait, et que la biologie n'a rien à voir avec un dieu rêvé, avec n'importe quelle idole fantasmée ou avec n'importe quelle création. On est bien dans des mécanismes matériels. Le darwinisme va, avec le néo-darwinisme, se réduire à deux paramètres seulement. D'une part, le gradualisme de l'adaptation. Alors ça permet de placer les gènes qui sont lents à faire apparaître des choses. Et le deuxième paramètre, c'est la sélection naturelle. Mais la sélection naturelle, c'est normalement la concurrence pour la survie. Or, dans le néo-darwinisme, cette sélection naturelle va se réduire à ce qu'on appelle le succès reproducteur. En fait, alors le succès reproducteur, c'est quelqu'un se reproduit mieux qu'un autre, hein, un oiseau se reproduit plus qu'un autre, il va donc laisser plus de gènes. C'est très simple. Donc ça veut dire que l'évolution concerne aussi bien les êtres humains qui, de toute façon, se reproduisent de manière différentielle. Certains vont pas du tout se reproduire, d'autres beaucoup. Et comme c'est le succès reproducteur qui détermine l'évolution, on voit qu'avec l'évolution, on a un peu hésité maintenant à parler de sélection naturelle. Le problème, c'est que ces deux paramètres vont très vite être critiqués. D'abord, le gradualisme, parce que Goldschmidt va découvrir ce qu'on appelle les gènes architectes. Alors ces gènes architectes, c'est évidemment des gènes qui vont tout modifier. Un gène architecte, c'est un gène qui, avec un tout petit niveau, une simple variation de base, est capable de modifier toute l'architecture d'un corps. Il décide en quelque sorte de la période, du temps. Il est capable de décider de la structure d'un organe. Alors qu'il y a des gènes qui vont être à plusieurs pour faire une seule chose, il y a des gènes qui, à eux tout seuls, vont changer beaucoup de choses. Évidemment, ces gènes architectes montrent qu'une petite nuance, une petite variation de gènes peut entraîner un grand changement organique. Et puis, il va y avoir un autre critique important, c'est la critique des équilibres ponctués, développée par Gould. Gould nous dit, non, l'évolution n'est pas graduelle. Ça se passe un peu, si vous voulez, comme sur une lorsque vous vous promenez en montagne. Vous savez bien que les montagnes sont en train de s'user lentement, petit à petit, hein, que cette usure lente et continuelle va conduire les montagnes à devenir des plaines. Mais pourtant, on vous indique aussi de temps en temps, attention, chute de pierre. Ça veut dire que l'évolution fonctionne de la même manière. De temps en temps, c'est lent, et puis de temps en temps, c'est d'un seul coup rapide. C'est ce que Gould va appeler des équilibres ponctués. Puis depuis, on a encore découvert autre chose, le transfert latéral des gènes, et même aujourd'hui, la théorie en mosaïque de l'arbre, on y reviendra tout à l'heure. Quant à la sélection à partir de la concurrence, alors là, on est en plein mélange. Quasiment plus personne ne se souvient que la sélection ne devrait exister que par la concurrence, parce qu'on ne la trouve pas là. En fait, quand les êtres vivants, quand les organismes sont en concurrence, eh bien, ils se tapent dessus et ils finissent par mourir. Il n'y en a pas beaucoup qui survivent grâce à ça. Ce n'est pas facile de le concevoir, mais il suffit d'imaginer que les surpopulations et les batailles animales ne conduisent pas à faire évoluer quelque chose pour qu'on comprenne que les choses ne se passent pas comme ça. Alors, on pourrait évidemment penser aussi à l'importance de la sélection sexuelle, de la volonté des individus, le choix des partenaires sexuels, etc. Mais alors là, on est dans pleine crise kuhnienne, comme on dit. C'est-à-dire que Kuhn a montré que parfois, lorsqu'on n'avait pas une bonne théorie, eh bien, on multipliait les hypothèses autour de cette théorie. Là, pour la sélection sexuelle, le nombre de théories est tellement important que je ne peux même pas ici vous les citer. Il y en a des centaines et elles sont toutes contradictoires les unes avec les autres. Cette crise de la sélection sexuelle signifie quelque chose. Elle signifie que la biologie est en crise et qu'il va falloir qu'on découvre quelque chose d'autre. Quant à la sélection naturelle, rien n'est probant, car la théorie nous dit que c'est un tri des espèces. D'accord, on est arrivé à une espèce générale, ce qui est résumé par David Hull, qui nous dit « les gènes varient, l'individu se reproduit et les populations évoluent ». D'accord, la variation serait donc uniquement dans les gènes, c'est-à-dire dans des erreurs qui s'additionneraient. Or, beaucoup de biologistes ne sont pas d'accord, les gènes ne changent pas tout à fait comme cela. D'abord, il y a eu les critiques de Kimura, qui nous dit « non, les gènes peuvent changer de manière neutre sans changer les organismes ». Les critiques de Gould sur l'adaptation, d'autres critiques encore, et tous ces travaux vont saper l'édifice néo-darwinien. Alors ce n'est pas le lieu, aujourd'hui, de vous parler de ce qui change dans la génétique des populations et dans la génétique tout court. C'est trop compliqué pour en parler comme ça au cours d'une émission sur Darwin. Il faudra qu'on y revienne davantage. Mais par contre, il faut bien comprendre que cette théorie s'est actuellement réduite à une seule chose, les individus réussissent ou non à se reproduire. Et vous en entendez tout le temps l'élément fondamental, à savoir, si les animaux ne cherchent pas à se reproduire, s'ils ne laissent pas leurs gènes, eh bien l'espèce va disparaître. Alors, on voit que la critique qu'on avait faite la dernière fois déjà de l'argumentation darwinien, qui était l'inouïe tautologie de l'argumentation, l'incroyable circularité du raisonnement, puisque Darwin nous dit... Il y a un tri, les individus les plus aptes de l'espèce vont survivre, et comme cette survie constitue la preuve de leur aptitude à survivre, on en déduit qu'ils sont aptes, et qu'ils ont gagné la bataille de la survie. Si vous préférez, en quelque sorte, Darwin dit, les survivants ont montré une capacité à survivre. Bon, on pourrait appeler ça une lapalissade ou de la tautologie, la démonstration c'est bancal. Avec le néo-darwinisme, le système est beaucoup plus indiscutable, parce que on va montrer que Darwin va inscrire sa théorie dans des limites qui sont finalement des limites politiques de son temps. On est absolument d'accord sur l'hypothèse qu'il y a de la concurrence, que grâce à la concurrence, les meilleures sociétés vont gagner, les plus faibles vont perdre. Alors on oublie un petit peu de nous dire que ces grandes sociétés gagnent grâce à un système de monopolisation, et on nous fait croire que c'est au contraire comme ça que fonctionne l'évolution. On voit à quel point le capitalisme victorien a été la source d'inspiration des thèmes de la concurrence et de la survie des plus aptes. Mais les scientifiques actuels, évidemment, restent absolument persuadés de ces éléments-là. Et ce sont ces idées de droite, intéressés par des notions d'ordre et de justification de différences de classe, qui ont pénétré tellement la biologie qu'on n'arrête pas de nous faire croire que finalement, les individus vont avoir un coût, vont avoir un bénéfice, vont s'enrichir ou vont se perdre. Et même si on arrive à faire émerger une critique dans le darwinisme, il faut encore réussir à prouver que les notions évolutives qui sont défendues actuellement par le néo-darwinisme ne trouvent pas d'application dans la vie sauvage. Bon, alors il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites à travers des textes, mais il y a aussi beaucoup de textes qui nous disent « mais si, ça fonctionne, mais si, Darwin était bien, Darwin était le meilleur ». Et encore tout à fait récemment, un jeune auteur qui vient de publier que Darwin, finalement, utilisait la méthode hypothético-déductive, ce qui en fait le premier des grands chercheurs. Oui, on va chercher ça très loin. Les preuves qu'il a qu'il utilisait ça sont assez faibles, c'est basé sur quelques courriers, mais après tout, il pouvait très bien utiliser cette méthode hypothético-déductive, puisqu'elle a été critiquée par Claude Bernard dès le début du 19e siècle. Passons. De la même manière, Wallace avait proposé déjà de remplacer l'hypothèse de la survie du plus apte, et puis ça n'a pas empêché le maintien de cette idée de la sélection naturelle. Il faut bien comprendre que c'est difficile de faire la différence entre la sélection naturelle et ce que les biologistes appellent, dans la nouvelle conception néo-darwinienne, la fitness. La fitness, c'est en fait la réussite des individus. Et cette réussite sexuelle reproductive des individus est donc la manière de sélectionner des individus. Donc vous voyez que c'est assez compliqué, les deux sont un peu deux forces parallèles qui seraient là. Et en fait, sélection naturelle et reproduction différentielle seraient quasiment l'envers et l'endroit de la même chose. En tout cas, il y a au départ une erreur génétique, Et cette erreur génétique se serait fixée grâce à la réussite de certains et grâce à, l'échec des autres. Et cet échec et cette réussite des autres, eh bien actuellement, dans le néo-darwinisme, on oublie un peu de dire que c'est à cause de la concurrence que ça existerait. On ne sait pas trop à quoi ça existe, et donc on essaye un petit peu de travailler sur cela, et les théories nous présentent une chose ou bien une autre. Mais quand bien même on a révélé l'archaïsme et les limites de toutes les théories darwiniennes, le néo-darwinisme nous réplique aussitôt que c'est pas grave, parce que la théorie évolutive a évolué, et que donc on reste pas dans les théories de 1960, on a évolué. Et donc, en gros, même les théories qui sont à l'encontre de la toute-puissance de la concurrence, par exemple, qui devraient être susceptibles de trier les individus, peuvent s'affirmer comme finalement néo-darwiniennes. C'est-à-dire que la théorie actuelle, le néo-darwinisme, incorpore même ses propres critiques. Donc on ne sait plus du tout comment on peut critiquer le néo-darwinisme, sinon évidemment en se penchant un peu plus sur l'aspect eugéniste qu'il continue à véhiculer. D'ailleurs, à la limite, pour beaucoup de chercheurs, y compris pour des chercheurs de haut niveau, le néo-darwinisme est devenu synonyme de biologie évolutive. Et donc rien n'autorise à discuter, sinon on serait un critique à la limite du créationnisme, vous voyez, quelque chose de pas très très beau. Et puis il faut bien comprendre aussi que si l'évolution évolue, c'est que quand même on découvre que des choses ne vont pas. Et tous les chercheurs qui découvrent que les choses ne vont pas, eh bien on essaie de les intégrer dans la théorie centrale en nous disant non, le néo-darwinisme n'a pas bougé. Le néo-darwinisme ne bouge pas. Le néo-darwinisme est une théorie totale qui a tout découvert. Et finalement, tout ce qu'on dit actuellement n'est que la descendance de tout cela. Pourtant, entre 1947 et 1958, les choses vont changer. Et d'ailleurs, même la musique change. Richie Valens, Come on, let's go, 1958. C'est l'histoire de deux brontosaures qui voient un T-Rex qui va fondre sur eux. Alors, nos deux amis brontosaures se mettent à courir aussi vite qu'ils peuvent, car il ne suffit pas de brouter tranquillement dans la savane quand on est poursuivi par un T-Rex. L'un des deux brontosaures commence à s'essouffler et il dit à son compère « Mais pourquoi est-ce que nous nous fatiguons ainsi? De toute façon, jamais nous n'arriverons à courir plus vite que le T-Rex. » Et l'autre brontosaure lui dit cyniquement « Je ne cherche pas à courir plus vite que le T-Rex, je cherche juste à courir plus vite que toi. » Cette fable a été imaginée par Rochard Dawkins. Elle a pour but de rappeler que le moteur de l'évolution qu'est la sélection naturelle serait la concurrence, que la compétition au sein de chaque espèce est la forme que va prendre l'évolution. Or, si la concurrence est le maître mot de la théorie du néo-darwinisme, évidemment, on imagine cette concurrence comme étant à l'intérieur de chaque espèce, comme étant une espèce de combat de survie. Souvent, le commun des mortels imagine davantage que la concurrence serait celle entre les prédateurs et les proies. Mais ce n'est pas du tout ça, le darwinisme ou le néo-darwinisme. C'est bien la concurrence des individus au sein de la même espèce. Toi, moi, auditeur, auditrice, c'est nous qui sommes en concurrence dans le seul but de pouvoir évoluer. Or, évidemment, de nos jours, la plupart des biologistes n'imaginent quand même pas ça tout à fait comme ça. Alors, il faut comprendre qu'à côté du néo-darwinisme, qui a quand même été une révolution authentique des concepts, on a évidemment beaucoup d'autres biologistes qui découvrent des choses différentes. On découvre tout à fait que quelque chose ne se passe pas tout à fait pareil. Si le but des espèces serait de diffuser leurs gènes, pourquoi certaines espèces apparaissent tellement fatiguées, tellement peu promptes à vouloir faire de la reproduction, voire même, comme les saumons, vont finir par se suicider au lieu de continuer à se reproduire? Si les espèces ont comme seul et unique but de vouloir fabriquer des gènes nouveaux, permettre leur survie, eh bien, on voit que des tas de petits riens vont finir par tout compliquer. Alors évidemment, on peut nous dire, mais tout ça c'est lié à du hasard. C'est un peu l'hypothèse qui a été faite pendant longtemps à travers les idées de Kimura. Il y a les adaptationnistes qui veulent que tout soit adapté, et puis les neutralistes qui nous ont dit « non, non, mais ça peut être neutre, ça n'a pas toujours d'importance ». Et puis évidemment, on a aussi des idées nouvelles avec par exemple l'altruisme, le gène de l'altruisme, le gène du banditisme, le gène de ceci, le gène de cela. Toutes ces idées féeriques sont des espèces de poncifs de la biologie, notamment de la sociobiologie, qui sont périodiquement réinventées. D'ailleurs, André Pichot avait fait un superbe article il y a quelques années qui s'appelait « Darwinisme, altruisme et radotage ». Radotage, pourquoi ? Parce que le darwinisme se répète, le néo-darwinisme se répète. On peut relire André Pichot pour bien comprendre comment on a affaire ici à une discipline, à la biologie comme discipline assez pauvre, intellectuellement assez pauvre, qui va travailler à partir d'un nombre très limité d'idées. Pour vous donner un petit exemple, on vient de finir un texte sur les loutres et on s'est aperçu que certains de personnages qui avaient écrit sur les loutres étaient capables de nous sortir des grandes théories sur les mammifères et sur la vie des carnivores sans même être capables de citer les espèces dont ils parlaient, sans même se référer à de la vraie bibliographie d'observation des animaux. Donc beaucoup de choses sont quand même tout à fait étonnantes. Le néo-darwinisme est arrivé maintenant à un point tel qu'il va falloir évidemment qu'on passe un petit peu à autre chose. Sans doute sommes-nous un tantinet ingrat. L'ingrate de Anne Sylvestre.
Un loup qui roulait en voiture hors des chemins les plus passants connaissait la mésaventure d'un réservoir agonisant. Après avoir dans sa panique insulté tout ce qui bougeait, il guettait le problématique secours qui se présenterait. Lève le pouce mon gaillard, fais patte douce à tout hasard. Vient à passer un véhicule, une dame le conduisant, une auto comme il en circule dans nos campagnes couramment. Elle l'embarque sans malice, dit que la pompe est assez loin, mais que pour lui rendre service, elle refera le chemin. Pas de secousse, mon gaillard, fais patte douce, à tout hasard. Au retour, la dame s'étonne, je vous ai ramené ici. Quant au bidon, je vous le donne, au moins j'attendais un merci. Un merci, voyez-moi l'ingrate, je lui permets de s'en aller. Pendant qu'elle était sous ma patte, j'aurais pu 100 fois la violer. Tu éclabousses, mon gaillard, fais patte douce, à tout hasard.
Reste donc le processus matériel de la modification des espèces, le tri des meilleurs ou sélection naturelle. Alors on comprend, le néo-darwinisme est devenu un couple particulier, la propagation des gènes. Chaque animal, chaque plante se voit attribuer un but ultime, propager ses gènes par tous les moyens possibles. Et la sélection serait que seuls les meilleurs vont réussir à ce prodige. L'évolution devient donc la reproduction des individus les plus aptes à se reproduire. On voit que le néo-darwinisme est extraordinairement simple. Mais est-il vrai ? Non seulement cela suppose une vision extraordinairement égoïste des choses, le gène va lutter pour son maintien infini, c'est cette hypothèse qu'on va retrouver par exemple dans le livre de Richard Dawkins, le gène égoïste. Richard Dawkins qui est souvent très apprécié parce qu'il a affirmé qu'il était athée, mais enfin c'est un athée de droite. Hein. Mais cela suppose quand même un eugénisme latent, car seuls les meilleurs pourraient réussir. Cela a été donc beaucoup critiqué par notre ami André Pichot par exemple. Reprenons, qu'est-ce qu'un gène égoïste ? Un gène égoïste n'est pas le contraire d'un gène altruiste. Tous les gènes, y compris les gènes supposés altruistes, seraient des gènes égoïstes. Le brontosaure continue de s'étonner. En partisan zélé et brillant de Darwin, Dawkins va donc décider d'aller beaucoup plus loin dans le néo-darwinisme le plus orthodoxe, en postulant sa fameuse hypothèse qu'on appelle la sélection par le gène. Prolongation parfaite d'une dévalorisation des individus face à l'importance de l'information, Dawkins va établir un raisonnement réductionniste autour d'une conception diffuse de l'information. En fait, le principe est simple. L'évolution n'est plus qu'à faire d'informations et il y a simplement un bruit aléatoire qui peut perturber l'expression des gènes. Cette synthèse éblouissante de la biologie évolutive et moléculaire que Dawkins a écrit, qui s'appelle donc le gène égoïste, va au bout de la conception la plus néo-darwiniste possible de l'information génétique. Alors, Mayr va la combattre, d'ailleurs avec une certaine mauvaise foi, et puis au bout d'un moment, Mayr va commencer à considérer que finalement, cette hypothèse de Dawkins n'est pas tout à fait inintéressante. En tout cas, en dépit du fait que cette théorie a une obédience parfaite au corpus théorique du néo-darwinisme, Dawkins va rencontrer des sceptiques. Pourtant, aujourd'hui, nombre de biologistes applaudissent à cette hypothèse qui place le cœur de la théorie darwinienne dans le gène. Mais pourtant, les brontosaures ne vont pas y suffire. On va voir qu'il va falloir assumer des conclusions beaucoup plus insolites. L'information prime, puisque les caractères variables dépendent des gènes. L'organisme lui-même n'est plus, pour Dawkins, que le porteur des gènes. Et c'est le code qui, peu à peu, va rendre ces porteurs efficaces. Aussi, selon ce qu'il nomme l'hypothèse de l'aptitude inclusive, l'évolution conduit à maximaliser l'efficacité de chaque individu pour diffuser le plus grand nombre de gènes aux générations futures. Si l'on préfère, le gène est une molécule initiale qui se reproduit elle-même, toute seule, depuis l'origine des temps, depuis la toute première soupe primitive. Les brins d'ADN s'assemblent, se dissocient, tout ça pour se reproduire. Et nous, les individus, les animaux, les végétaux, ne sont que les outils que va employer le gène pour envahir le monde. Le gène est donc ici un alien, l'histoire de l'évolution et l'histoire de cette auto-réplication de ce gène immortel. D'ailleurs, Dawkins nous parle d'un réplicateur qui va utiliser les organismes pour se répandre dans les populations. Tout ça dans un seul but, les rendre efficaces, mais pourquoi ? Pour réussir, en fait, à survivre lui-même. L'individu n'est donc qu'une machine à survivre favorable au gène. Définitivement égoïste, le gène se reproduit pour lui-même et les êtres vivants ne sont là que pour le seconder. À ce titre, l'espèce n'existe pas, elle n'est qu'un flux d'informations. Elle ne possède aucune importance. Comme n'importe quelle entité vivante, l'humain se réduit à être l'hôte de ses propres gènes. Donc le terme égoïste, apparemment anthropocentrique, qui aurait pu être critiqué par les biologistes qui n'aiment pas l'anthropocentrisme, n'attribue d'ailleurs pas une qualité intentionnelle, petit bout d'ADN, mais une réalité fonctionnelle. Ceci dit, puisque Dawkins a commencé l'anthropocentrisme, je vais le continuer. D'ailleurs, la plupart des biologistes étaient prompts à l'anathème. Ici, ils ont complètement disculpé notre épithète très intrépide de Dawkins. Mais examinons son hypothèse et cette logique. Le gène se reproduit à travers les organismes qui le portent. Par conséquent, c'est le gène, l'unité de la sélection évolutive. On est passé de la mort des individus à un problème de pur gène. Selon la théorie synthétique, le but des êtres vivants est de laisser le plus possible de leurs descendants. Avec Dawkins, le néo-darwinisme atteint donc sa conclusion la plus réductionniste. L'adaptation n'a pas d'autre intérêt que de propager des gènes, non pas des descendants, mais leurs gènes. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de nous raconter, au fur et à mesure que vous regardez des émissions sur les animaux ou sur les plantes, attention, son but, ça a été de réussir à laisser ces gènes. Alors évidemment, à travers cette théorie centrée sur le gène, l'évolution est devenue la longue succession du tri des gènes les plus adaptés, les meilleurs. Alors, ça clôt complètement la structure de l'ADN, puisque le gène est devenu une espèce de morceau d'éternité. Voilà pourquoi, effectivement, Dawkins a intérêt à dire qu'il est athée. Sinon, on pourrait croire qu'à travers ça, il est en train de reparler de Dieu. Il est en train de reparler de quelque chose d'éternel. Il faut donc rassurer le passant et lui expliquer qu'il a un rôle de petit porteur, mais que ce n'est pas grave, parce qu'en étant, en quelque sorte, un petit porteur, on va quand même être un petit peu immortel. On va laisser nos gènes. Il faudrait expliquer ça aux dinosaures, hein. Ne serait-ce que pas plutôt une aspiration magique d'immortalité qui conduit à ça ? On peut s'interroger, en tout cas, sur toutes ces petites choses-là. Mais Dawkins referme la porte sur une étrange redondance. Le gène constitue la matière première de l'adaptation. Mais il est aussi l'unité finale de l'évolution. Ainsi, l'hypothèse de l'aptitude inclusive que développe Dawkins va achever l'idée que le gène code son propre avenir. Avouez que c'est fort. L'information génétique va devenir donc la forme majeure du néo-darwinisme et elle est subtilisée. Les protéines ne vont s'exprimer que pour plaire aux gènes. L'égocentrisme des brontosaures individualistes tourne étroitement la clé du système d'explication. Seuls les gènes et l'adaptation vont exister avec le néo-darwinisme. On est évidemment très très loin de toutes les publications qui vont nous révéler combien l'évolution est flexible. En fait, la plupart des travaux scientifiques nous montrent que les animaux utilisent des moyens originaux, des moyens variés, que l'évolution est exubérance et ne colle pas du tout avec ces poncifs d'une réussite capitaliste. D'ailleurs, même Didier Raoult, qu'on ne peut pas qualifier tout à fait de biologiste d'extrême gauche, celui qui a découvert le mimivirus, va critiquer cette idée. En outre, l'arbre darwinien, on sait qu'il n'existe plus, L'arbre est un fantasme. L'idée d'un tronc commun, des espèces qui vont diverger avec des branches, c'est un non-sens. Il n'y a pas d'ancêtre unique, déjà, c'est plus compliqué que ça, on y reviendra. Mais en fait, il faudrait planter les racines en l'air. Pour vous expliquer la chose tout simplement, vous pouvez simplement penser à vos propres grands-parents. Il suffit de se rappeler que vous n'avez pas un ancêtre unique, mais que vous avez un minimum, on va dire, de deux parents. Et probablement que leurs parents en avaient deux également. Et si vous remontez comme ça très très loin, vous vous apercevez qu'on a des milliards de parents, et qu'en remontant quelques générations jusqu'à notre ami Charlemagne, eh bien probablement que Charlemagne a quelques gènes qui sont passés chez vous. Eh oui, on partage tous ces gènes, c'est ce qu'on appelle aussi en génétique un pool génétique. Alors voilà pourquoi, comme nous dit Didier Raoult, il est temps de dépasser Darwin. L'arbre est devenu une mosaïque. En fait, je suis beaucoup plus proche de penseurs comme Eugène Conin qui vont écrire dans Science en 2009 que maintenant, tous les grands principes du néo-darwinisme ont été quasiment remplacés par une vision nouvelle. C'est l'annonce officielle de la mort du néo-darwinisme. Évidemment, il va falloir maintenant se référer à tout un ensemble de choses. Merci en tout cas de votre attention pour cette explication première.
Alors, pour les ouvrages disponibles, pour approfondir ce thème, n'hésitez pas à consulter Richard Dawkins, Le gène égoïste, Ernst Mayr, L'évolution depuis Darwin, André Pichot de Darwin à Hitler, Didier Raoult, Dépasser Darwin, et aussi Thierry Laudet, La biodiversité amoureuse, sexe et évolution.
Che caldo faceva, brigadiere aprì un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù. Su quest'ore io ve l'ho già detto, lo ripeto che sono innocente, anarchia non vuol dire bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, se il tuo amico Valpreda ha parlato, è l'autore di questo attentato, ed il complice certo sei tu. Impossibile, grida Pinelli, un compagno non può averlo fatto, e l'autore di questo delitto tra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo, se insisti apriamo la finestra, quattro piani son duri da far. Bara e 3000 compagni, stringevamo le nostre bandiere, quella sera l'abbiamo giurato, non finisce di certo così. E tu guida e tu calabresi, se un compagno è stato ammazzato, per coprire una strage di Stato, questa lotta più dura sarà. Quella sera a Milano era caldo, ma che caldo faceva, brigadiere apri un po' la finestra, una spinta e Pinelli va giù.
C'était une version acoustique de la Ballata di Pinelli qui nous invitait à réfléchir sur le monde. Voilà, le darwinisme n'est plus une religion officielle. Alors pour résumer nos deux émissions consacrées à Darwin et que reste-t-il de Darwin, on peut retenir que, d'abord, le néo-darwinisme a évidemment complètement changé la donne. Nous sommes passés d'un Darwin qui nous parlait de la concurrence et de la mort. Vous vous rappelez, les individus sont triés, et sont triés par la mort, et seuls les plus beaux vont réussir. À un néo-darwinisme qui nous dit non, ce ne sont pas les individus textos, ce sont plutôt leurs gènes. En fait, on va même aller encore un peu plus loin, puisque ce n'est pas tout à fait leurs gènes, c'est l'information véhiculée par leurs gènes. Et la sélection est devenue l'art de laisser ses gènes, l'art de se reproduire. Alors c'est étonnant parce qu'on continue à parler de sélection naturelle, alors que dans le même temps, on s'aperçoit bien que si sélection naturelle veut dire la reproduction des meilleurs ou la meilleure reproduction possible, les deux choses étant largement confuses, eh bien on devrait tout simplement parler de succès de reproduction. Les anglo-saxons nous parlent de fitness, mais continuent à nous dire que Darwin a beaucoup d'importance. Or, vous ne retrouverez évidemment jamais le mot de fitness chez Darwin. Donc, on voit que la nouvelle du néo-darwinisme va inscrire tout un ensemble d'idées un petit peu rétrogrades pour les laisser petit à petit se véhiculer doucement, sans trop en parler. L'adaptation, on traite beaucoup moins ça. La sélection, on en parle un peu moins. On va parler plutôt de la réussite reproductrice. Et petit à petit, cette modification des idées est en train d'édifier une théorie absolument totalitaire, totalisante, qui nous explique complètement comment l'évolution se passe. L'évolution serait des petites erreurs génétiques qui seraient triées par un mécanisme dont on ignore encore tout au demeurant, qui serait fait à travers la reproduction des individus. Autant vous dire que c'est cette petite chose-là qui m'a intéressé de plus près, et dans lequel je me suis dit, puisque c'est la reproduction qui est de l'importance, évidemment, nous allons réfléchir à cette reproduction. Et nous allons donc réfléchir à ce qui va motiver cette reproduction, et en plus la compliquer d'une manière outrancière, ce qu'on appelle la sexualité. Bref, nous sommes actuellement aux portes d'un nouveau monde, où on s'aperçoit très bien que le néo-darwinisme n'est plus suffisant. On va dire que les frontières du néo-darwinisme craquent, même s'il continue avec beaucoup d'art à essayer d'incorporer tout le monde. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, et de plus en plus, ce fait de se craquer se voit. Nous venons de passer une heure et demie à décortiquer la biologie, et néanmoins, ce n'est pas facile du tout de lutter contre ce que représente Darwin. Car on en a fait un espèce de héros de la science qui aurait lutté contre le créationnisme. C'est pas faux, en partie. Le livre de l'origine des espèces a été construit pour lutter contre l'hypothèse d'une création. Mais lutter contre une création n'était pas lutter contre la religion. Darwin n'a jamais lutté contre les religions. Et à l'époque, il a même bien fait attention de ne pas critiquer le racisme, ni de critiquer d'ailleurs l'esclavage. On a donc écrit un roman autour de Darwin pour l'enjoliver, pour en faire un savant génial, alors qu'en fait, il n'était qu'un homme de son temps. Mais pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de cette pierre angulaire de Darwin? Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de ce type qui travaillait pas plus de 2 heures par jour, qui s'adonnait à la chasse, qui possédait des intérêts dans des fabriques, dans des banques, qui faisait de longues promenades, qui était typique du gentleman anglais du 19e siècle? Eh bien, on a eu besoin de ce Darwin pour établir l'acte de naissance d'une biologie officielle qui allait nous raconter que, sorti de la concurrence, le monde n'existait pas. La biologie, notamment, véhicule cette idée particulière de la réussite des meilleurs à travers la concurrence. En fait, aujourd'hui, la plupart des travaux scientifiques contemporains remettent en cause ces poncifs et évacuent même l'hypothèse centrale de la concurrence. Au contraire, de nombreux chercheurs proposent de réfléchir au rôle des interactions, au rôle de la facilitation dans le processus évolutif. De même, beaucoup de biologistes contestent la figure traditionnelle de l'arbre phylétique avec des ancêtres uniques. On en reparlera parce que c'est évidemment très important de comprendre d'où vient tout cela, de comprendre nos sources. À l'opposé, ils font admettre qu'il y a des transferts horizontaux, que la construction phylétique se fait en mosaïque, selon le principe de ce qu'on appelle maintenant une évolution réticulée, c'est-à-dire en mosaïque. Et même, bien sûr, que la biodiversité ne se construit que grâce à la reproduction, et que la reproduction va d'abord commencer par tout un ensemble de choses compliquées, des amours multiples et diversifiées. Et non seulement toutes ces idées évoluent, mais elles se fondent maintenant sur des animaux de plus en plus réels. Car au fur et à mesure que la biologie évolutive s'est fondée, elle s'est construite sur l'étude d'espèces réelles. Or, devant nous, l'évolution se passe chaque jour, dans le champ des pinsons, dans la différenciation des lézards. Et c'est cette évolution qui se passe devant nous, grâce à cette astuce de la biodiversité amoureuse, évidemment. Autant vous dire que nous aurons le plaisir de vous retrouver la prochaine fois, le lundi 24 juin, avec une nouvelle émission qu'on va intituler « La saison des amours ». On y parlera, avec un peu moins de sérieux, de cette question de la relation à la sexualité, de cette question de la relation à la reproduction. Voilà, le roi Darwin est toujours aussi nu que la dernière fois, et il n'a plus que costume que les idéologies qui empoisonnent la biologie et toute notre vie sociale. Et comme dirait Nietzsche, il faudrait vraiment chercher à quoi ressemblent ces choses quand on les met à l'envers. Ainsi se finit cette émission Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Cette émission a été enregistrée en Anjou, à Angers, et la musique d'introduction était de Hicham Chahidi. Et nous allons conclure sur un air de 26 Spinel, élévation jusqu'aux subtilités moléculaires d'une rétine de poisson. Avouez que ça mérite d'y réfléchir. Vous pouvez nous contacter en téléphonant au studio ou sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, science libre au singulier. Et je serai ravi de vous retrouver le quatrième lundi de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour continuer à décortiquer la biologie et surtout évidemment toutes les idéologies qu'elle véhicule.
J'écoute, j'en entends rien.
Allô, y a quelqu'un? Allô, comment? C'est quoi la chanson là? Oh,
Twist Girl.
Allô.
Et maintenant jusqu'au subtilité moléculaire d'une rétine de poisson.
Jusqu'au
subtilité moléculaire d'une rétine de poisson.
T'as rien à dire?
Comment? Attention, Eva.
Dans cette belle ville, il y avait des poissons. Il y avait aussi des filles, pas autant de garçons que de filles, de poissons que de chenilles, au moins de limaçons.
C'est une chanteuse qui te parle.
Et alors ? Dans cette belle ville, il y avait un garçon qui trouvait pas de filles, qui levait leurs jupons devant ses yeux de poisson, sa tête de limaçon et son corps de chenille.
Mais je peux arrêter parce que ça va servir.
Elle n'aimait pas ses manières de poisson.
Oh non,
elle n'aimait pas ses grands yeux de poisson, sa tête de limaçon et son corps de chenille.
Ah, ses grands yeux de poisson.
Ouais, elle n'aimait pas.
C'est triste.
Ouais.
Dans non, cette belle ville, il y avait des élections. J'ai voté pour Myrtille.
Parce qu'elle porte pas de jupon, parce qu'elle aime les poissons, les scooters, les hérissons, les dindons, les jonquilles.
Parce que c'est Myrtille.
Et ouais. Dans cette belle ville où l'on mange du ronron, le garçon aime Myrtille.
Elle se pose des questions, car s'il manque des garçons, Myrtille étant une fille, il lui manque un garçon. Et elle aime les lentilles, et porte pas de jupons, cela vaut du citron, à quoi bon faire la ville.
C'est vrai.
Mais elle n'aime pas les manières de garçon. Mais elle n'aime pas les grands yeux de poisson, la tête de limaçon et les corps de chenille.
Sa mémoire d'éléphant, c'est triste.
Oui.
Il a rejoint les poissons, les dindons et hérissons. C'est fait bouffer. Ouais, c'est ça. Ça fait bouffer par les chenilles.
Ah oui, ouais. Ça fait bouffer. Hein.
Ah oui.
Bah ouais.
Une question.
Ah, au secours.
C'est quoi cette fin là? Je suis censée faire quoi?
Je sais pas.